Merci Roland Lardinois et Catherine Fima. Merci aussi de vous être tenus parfaitement à l'horaire. Je passe maintenant la parole à Thomas Hirsch qui va nous parler de Mauss Professeur.
Parfaitement, merci beaucoup. Et merci de m'avoir donné l'occasion d'évoquer quelques aspects d'une recherche en cours sur l'enseignement de Marcel Mauss, et en particulier son enseignement à l'Institut d'ethnologie entre 1925 et 1939. On pourrait partir, je vous propose de partir dans une démarche régressive de deux traits de son indiscipline savante, pour reprendre cette jolie expression, qui motive cette recherche qui est largement fondée sur les archives. Le premier trait, c'est la relative indétermination disciplinaire de Mauss, qui est sensible dans les caractérisations posthumes, qui se superposent dans les textes profanes comme chez les commentateurs les plus autorisés. On parle de Marcel Mauss comme d'un sociologue, mais aussi comme d'un ethnologue, voire comme d'un anthropologue. Cette indétermination, elle prend appui sur une dispersion institutionnelle réelle de son vivant entre la cinquième section de l'école pratique des hautes études à partir de 1901, et on peut noter d'ailleurs qu'il est rare de voir caractériser Mauss comme un historien des religions, quand bien même du point de vue des pratiques savantes qui étaient les siennes, cette étiquette ne serait pas sans pertinence. Deuxième institution, l'Institut d'ethnologie, à compter de 1925, dont il est en volume horaire et dans la mémoire de l'institution le principal enseignant. On peut noter que son cours n'est pas d'ailleurs sans poser lui aussi des difficultés terminologiques, puisqu'il se trouve intitulé dans les notes d'étudiants comme dans les annonces officielles de manière différente. On parle parfois des instructions d'ethnographie descriptive, mais d'autres fois, et il est présenté par Mauss lui-même comme un cours de sociologie descriptive, d'autres fois encore comme un cours d'ethnologie, et finalement, bien d'autres combinaisons de ces termes apparaissent, le mot manquant étant bien sûr le mot d'anthropologie. Troisième institution, le Collège de France, enfin, où Mauss est élu, on l'a vu ce matin, en 1930, sur une chaire de sociologie, terme qu'il a maintenu de manière volontaire, en dépit des facilités électorales que lui aurait valu une proposition de chaire d'ethnologie, terme en partie resémantisé par l'Institut à partir de 1925, mais que Mauss, comme il l'indique dans une lettre à Antoine Meillet en 1929, n'aimait guère, et il ajoutait « Si j'ai une certaine durée de vie devant moi, je suis bien décidé à lâcher d'un cran les primitifs, et se met une gêne morale en ce moment que d'y être cantonné. » Le second trait de cette indiscipline savante est sensible dans la grande diversité des lectures qui ont été proposées des écrits de Marcel Mauss depuis sa mort. Peu d'œuvres, notait le sociologue Claude Dubard dès 1969, ont suscité autant d'interprétations diverses, voire contradictoires, que celles de Mauss. De fait, celui qui est présenté par les cahiers internationaux de sociologie en 1950 comme le plus original et le plus indépendant continuateur de Durkheim, a pu être présenté alternativement, je vais juste mentionner quelques-unes des étiquettes qui ont pu être mobilisées, comme un précurseur de l'anthropologie ou de l'anthropologie structurale, une figure éminente du fonctionnalisme, le fondateur de l'ethnologie, ou de l'anthropologie sociale, ou de la technologie, ou d'une ethnographie fondée sur le travail de terrain. Il a été considéré comme une figure tutélaire de l'affranchissement définitif de la sociologie vis-à-vis de la philosophie, ou bien de l'ethnologie vis-à-vis de la sociologie. Et ainsi, du passage de la sociologie au stade expérimental, d'autres commentateurs parlent d'un stade phénoménologique. Il est aussi considéré comme un modèle pour l'articulation entre connaissances savantes et engagement politique, un personnage clé encore pour l'intégration de la biologie à la réflexion sociologique, du dialogue avec la psychologie, d'autres parlent d'un dialogue avec la psychanalyse, ou encore de la mathématisation des sciences sociales. Cette grande dispersion, elle tient en partie, je pense, au poids symbolique que revêt Mauss en tant que neveu et héritier de Durkheim. Et de fait, quand on lit les textes consacrés à Mauss, c'est souvent de Durkheim qu'il est question en filigrane. Mais elle s'appuie aussi sur un profil savant qui était réellement atypique. D'abord parce que Mauss était un maître sans livre, dans un monde qui se pense d'abord comme un monde de l'écrit, voire de l'imprimé. Il indiquait lui-même que ses vues ne se trouvaient nulle part réunies, que ses textes, épars et non systématiques, constituaient, et c'est son expression, autant de fœtus, voire de morceaux de fœtus, bref, selon sa propre expression, de véritables petits monstres. D'autant moins tenu à une quelconque orthodoxie qu'il incarne complètement la poursuite de l'entreprise durkheimienne, ce laborieux savant, pour reprendre ici les mots d'un de ses premiers commentateurs, Daniel Essertier, n'a pas donné l'ouvrage d'ensemble où sa doctrine propre serait susceptible d'apparaître dans ses lignes maîtresses. C'est dans des communications ou des articles sporadiques qu'elle s'esquisse et d'où l'on peut tenter de l'extraire. La formule, qui date de 1930, a l'avantage de mettre en relief l'activité du commentateur, susceptible, hier comme aujourd'hui, de sélectionner le corpus qu'il tient pour pertinent afin de caractériser ce qui serait la doctrine, et peut-être sa doctrine, d'Homos. Encore serait-il plus exact de parler d'attitude que de doctrine, avertissait Daniel Esserti en 1930, quiconque s'efforcerait d'enfermer en une formule cette pensée à la fois impérieuse et flexible, catégorique et nuancée, irait au-devant d'un échec certain. Pour chacun de ces deux aspects de son discipline savante, 1950 constitue une date pivot. Si les témoignages s'accordent pour dire qu'il y avait fort peu de monde autour du cercueil d'un homme pour partie déjà disparu depuis plusieurs années, la mort de Mauss le 10 février, doublée de la publication quelques mois plus tard du recueil Sociologie et Anthropologie au PUF, occasionne toute une littérature qui constitue le premier moment de la vie posthume de Marcel Mauss. Or, pour être contrasté, cette vingtaine de textes, dans un moment de réorganisation institutionnelle des sciences sociales et de redéfinition de l'héritage de la première moitié du XXe siècle, opèrent deux gestes décisifs, me semble-t-il. Le premier, qui prend appui sur la distinction croissante entre une sociologie qui se tourne vers l'étude des sociétés industrielles occidentales et l'ethnologie, c'est l'invention sous la plume de ses élèves d'un Mauss ethnologue, fondateur, pour reprendre l'expression de Denis Paulme, d'une école française d'ethnologie, expression qui est bien sûr décalquée sur celle d'école française de sociologie de Durkheim, et qui illustre parfaitement ce passage d'une discipline à l'autre. Même si ses compagnons de route, Henri Lévy-Brulle et Georges Bourgin notamment, soulignent par contraste que Mauss était et ne voulait être que sociologue, le geste va trouver une forme d'aboutissement quelques années plus tard, à l'occasion de la leçon inaugurale de Claude Lévi-Strauss, qui présentera sa chaire d'anthropologie sociale comme une restauration de la chaire de Mauss, dont la dénomination première aurait été en quelque sorte, si ce n'est fallacieuse, du moins trompeuse. Le second geste décisif, c'est avec d'abord le manuel d'ethnographie publié en 1947, qui est, rappelons-le, le premier livre publié sous le seul nom de Marcel Mauss, mais surtout avec sociologie et anthropologie et sa vigoureuse introduction, la création d'un auteur dont le principal texte serait l'essai sur le don, Essai sur le don qui est présenté aujourd'hui dans le dictionnaire comme le principal livre de Marcel Mauss. Et dans cette même ligne, on peut considérer que les éditions remarquables récentes des PUF poussent la logique à leur terme, puisque Mauss se trouve aujourd'hui l'auteur de toute une série de livres, alors même qu'il n'en avait écrit aucun. À cette date, toutefois, ce qui peut apparaître, et c'est là que j'en arrive au cours, vous m'excuserez cette longue introduction, ce qui peut apparaître comme une normalisation en fait savante de son statut et de son indiscipline, se trouve très largement disputé, et en particulier à l'auteur ainsi créé, s'oppose en 1950 la figure du professeur. L'essentiel de Mauss se trouve dans ses cours, affirme ainsi Henri Lévy-Brulle, que rejoignent toute une partie des auditeurs du cours d'ethnologie, lequel aurait, pour reprendre une expression de Pierre Mettet, nourri spirituellement toute une génération, suscité de nombreuses vocations, au point d'être vite célébré comme le lieu de naissance de l'ethnologie en France. Quoiqu'en partie ineffable et souvent décrit comme un choc, une révélation, l'oral où Mauss déployait librement son érudition, son originalité, son goût des digressions, son côté primesautier, si ce n'est hableur ou bavard, disent certains commentateurs, sa générosité aussi, est ainsi présenté, plutôt que l'écrit, comme la forme privilégiée de son activité savante. Donc en amont de ces gestes de création d'un auteur et d'un ethnologue, au croisement des enjeux disciplinaires et de ceux qui touchent au profil savant de Mauss, ces leçons données à l'Institut d'ethnologie me paraissent en somme constituer un objet privilégié pour questionner son rôle, son positionnement et son type d'activité savante. Il attachait du reste lui-même un certain prix à cet enseignement, qu'il envisageait régulièrement de publier. Il en annonce encore la publication, et sous le titre de « Cours de sociologie descriptive » à Ignaz Meyerson en 1943, confiant qu'il s'agirait de la seule œuvre formant un tout que je publierai peut-être, si on me le permet, et il ajoute « Il vaut mieux qu'il voyage sous mon nom que sous celui de Griol ». Si le cours, dans l'abondante littérature consacrée à Mauss, demeure somme toute assez peu interrogé, c'est d'ailleurs qu'à cette date, en 1943, Mauss a sous les yeux un premier texte composé par Denis Paulme, qui deviendra en 1947 le manuel d'ethnographie. Autrement dit, la question demeure assez peu posée, puisque la réponse semble déjà donnée. Quoique présentée comme la sténotypie, ce qui n'est assurément pas, comme une photographie du texte parlé, qui est une formule ambiguë à souhait, puisqu'elle suppose l'existence d'un texte comme antérieur à la parole, Cet ouvrage est le résultat d'une mise en texte jugée décevante lors de sa parution par la majorité des auditeurs de Mauss, un livre déjà considéré comme daté en 1947, dont se serait évaporée toute la magie oratoire qui caractérisait le cours. Il n'est guère possible de revenir sur la composition, le travail de formation de ce volume, les archives de Denis Paulm en particulier sont sur ce point muettes. En revanche, en deçà de ce texte figé, il est bien des matériaux qui permettent d'interroger l'enseignement dispensé. D'abord, les archives du Musée de l'Homme renferment toute une série de prises de notes des leçons de Mauss, manuscrites ou dactylographiées, dues à différents auditeurs, parmi lesquels Jeanne Cuisinier, Idlet Allier, Anatole Levitsky, Thérèse Rivière, d'autres sont anonymes, je passe. S'y ajoutent d'autres prises de notes conservées dans d'autres fonds d'archives, on peut évoquer ceux de Marcel Griol et de Paul-Émile Victor notamment. À ce premier ensemble de notes s'ajoute la correspondance de Mauss avec ses élèves, en particulier lorsque ces derniers vont sur le terrain, qui offre un suggestif contrepoint puisque les lettres en forme de contre-don à l'enseignement reçu documentent l'usage des cours qui sont souvent emportés sur le terrain et mettent en lumière certains points considérés par les élèves comme décisifs. Et donc ça donne une image de leur lecture déjà du cours en confrontation avec le terrain. Reviennent ainsi en particulier les questions du totémisme, du phénomène social total et du don. S'y ajoute encore la correspondance entre les élèves eux-mêmes, qui donne à voir un discours dénué de censure sur Mauss et sur son enseignement, tandis que ses propres échanges avec les ethnologues ou anthropologues étrangers documentent son inscription et l'inscription de son enseignement dans des réseaux internationaux. Il convient encore d'y ajouter des sources imprimées, articles ou communications de Mauss qu'il présente comme des extraits de son cours, compte rendu aussi qui en constitue la matière première, car Mauss enseigne quelque chose qu'il n'a jamais pratiqué autrement que par le truchement de livres, étrangers pour la plupart. S'y ajoutent encore les usages de Mauss et de ses idées dans les publications de ses élèves, et enfin les nombreux témoignages postérieurs qui s'attachent à décrire l'enseignement et son effet. Voilà, c'est un travail de collection et d'interrogation croisée de ses sources que je me consacre. Il serait prématuré, il ne peut être question, surtout après une trop longue introduction, d'en dégager des conclusions ou même de procéder à une forme de tour d'horizon des points que l'enseignement soulève. Je voudrais en première approche porter l'accent sur deux dimensions. D'une part, la question du rapport entre cet enseignement ethnologique ou ethnographique et la sociologie, et d'autre part, les manières dont ces différentes sources permettent d'approcher la parole et le ressort pédagogique du cours. Sur le premier plan, qui vient à questionner le passage de Mauss de l'ethnologie, de la sociologie à l'ethnologie opérée au tournant des années 50, les prises de notes apportent nombre d'éléments. Pourtant, à en croire la diversité et les caractères très contradictoires des notes des premières leçons, des leçons introductives, qui situent l'étude des sociétés archaïques des colonies françaises dans le concert des sciences de l'homme, Mauss ne semblait pas accorder grande importance aux questions terminologiques relatives aux différentes sciences, et en particulier aux manières de définir ethnographie, ethnologie et anthropologie. Sur ce point, les prises de notes sont absolument contradictoires. Il faut dire que ça tient précisément à la nature de ces traces archivistiques aussi, puisque les notes de cours sont le produit d'une interaction et une forme de coproduction entre le professeur et les élèves. Or, pour ces derniers, ces enjeux de délimitation des sciences et des approches, là où les professeurs se mangent entre eux, pour reprendre une autre expression de Mauss, devaient paraître sans doute assez complexes et secondaires. En revanche, qu'elles soient nommées ethnologie descriptive, sociologie descriptive ou concrète, ethnographie ou même ethnographie descriptive, la science qu'il se propose d'enseigner se caractérise par quelques traits fondamentaux, récurrent d'une prise de note à l'autre. Elle est une science d'observation, descriptive, objective, intensive plutôt qu'extensive, et elle a pour but, je cite, « la connaissance des faits sociaux ». Son idéal serait, selon une prise de note de 1927-1928, de réunir tout ce qu'on peut savoir sur une société donnée, de connaître tous les faits et de donner à chacun sa valeur et sa dimension propre. Il en résulte, au fil des leçons, une forme de double discours vis-à-vis de la sociologie. Pour une part, l'observateur doit s'abstenir de toute sociologie, dans la mesure où il doit se défaire des théories préconçues. Il faut, je cite, « donner l'impression nette qu'on n'a pas choisi, on a dit tout ce qu'on a vu, et donc écarter soigneusement toute hypothèse, toute appréciation. » En ce sens, je cite de nouveau, cette fois une prise de note de 1934-1935, « les questions de sociologie générale ne nous appartiennent pas en tant qu'ethnologue, elles risqueraient de gauchir plus ou moins consciemment notre observation. » Se défaire de la sociologie participe ainsi de l'effort pour observer sans aucun a priori, pour adopter une attitude objective qui doit, insiste Mauss, être constante et à propos de tout. Il convient donc de se défier de soi-même, En particulier, insiste régulièrement Mauss, parce qu'on croit souvent trop facilement comprendre alors que les choses sont compliquées. Il convient de se défier de ces jugements moraux, puisque, et je le cite, les plus grandes orgies peuvent être tout simplement de grandes cérémonies secrètes. Il convient de se défier de sa propre mentalité, puisque le but est de s'incorporer à la mentalité et à la société des indigènes. Attitude indispensable, note ainsi Yvette Allier, aucune recherche de théorie, aucune autre recherche que la recherche objective des instruments, de toute leur série et de tous les moyens employés par les hommes qui s'en servent, à quelque degré que ce soit, avec toutes les précisions possibles. Il ne faut rien éliminer, ne rien apprécier des faits de l'enquête, indique encore une autre prise de note, et pour cela, il faut se faire instrument d'enregistrement. Mais d'autre part, comment Mauss nomme-t-il cet observateur incompli, celui qui parvient à se faire réellement instrument d'enregistrement des sociétés, un sociologue professionnel ? Étant entendu que le maximum d'exactitude, comme il l'indique encore en 1927-1928, serait obtenu d'un indigène sociologue, il est en effet possible, poursuit alors Mauss, de dresser un indigène à la recherche. C'est que pour se défier des théories générales, et tout spécialement du diffusionnisme d'un père Schmitt qui était de l'avis général la tête de turc du cours, celui qui part sur le terrain n'en doit pas moins savoir, je le cite, ce qu'on sait déjà afin d'amener à la surface ce qu'on ne sait pas encore. La théorie est donc, en ce deuxième sens, je le cite encore, avant tout un moyen d'avoir l'œil ouvert sur la réalité. Il faut surtout à l'observateur ce que Mauss appelle des cadres de classement. C'est l'objet même de l'enseignement que de les transmettre. Or, celui-ci, indique Mauss, est formé sur un plan de sociologie rigoureux. La formule permet de lier son enseignement à l'Institut, qui est le seul à suivre un plan, notons-le en passant, avec en particulier un texte didactique et programmatique publié en 1927, « Division et proportion des divisions de la sociologie » dans l'année sociologique, qui est un texte non retenu dans Sociologie et Anthropologie, pour cette raison assez peu commenté, alors que c'est un texte où il s'affronte directement au poids de l'héritage de Durkheim en mettant en lumière les défauts de l'organisation théorique de l'année sociologique, reflet des défauts actuels de la sociologie. Et il propose dans ce texte, en contrepartie, un réaménagement du plan de la revue, une nouvelle distribution des parties, un rééquilibrage en faveur de la morphologie sociale, de la linguistique, de la technologie et de l'esthétique en particulier. Ce nouveau plan, c'est peu de le dire, il ne sera jamais appliqué dans la revue, puisque ce deuxième tome de l'année sociologique ne sera pas même publié de manière complète. En revanche, ce plan, ça va être celui en 1927, de son enseignement à l'Institut d'ethnologie. Le plan du cours est celui d'une sociologie renouvelée selon ses voeux, une sociologie qu'il dit « remise sur pied », qui irait de la morphologie sociale à la religion, et capable de saisir le corps des sociétés sans le mutiler. Au-delà même de cette question de plan que déjà significative, le cours tend, en quelque sorte, à transformer l'année sociologique en questionnaire d'enquête. Il mobilise les travaux de ses collègues sociologues, Marcel Granet, Paul Fauconnet, Maurice Alvax, Robert Hertz, parmi d'autres. Il propose aussi des définitions des différents phénomènes à étudier, la société, la famille, le droit, le crime, la religion, le totémisme, le plus souvent en s'appuyant sur les définitions proposées par Durkheim dans la revue. Il réinvestit bien sûr l'intense travail bibliographique opéré pour la publication depuis les dernières années du XIXe siècle, qui devient un répertoire d'exemples, de modèles et de contre-modèles, lancé à un auditoire en partie confondu par tant d'éruditions, sans jamais être noté au tableau, par ailleurs. C'est aussi, du point de vue des pratiques enseignantes, quelque chose qu'on peut remarquer, puisque les noms sont systématiquement mal orthographiés par les élèves, ce qui montre qu'ils étaient lancés comme ça à la salle. Il transmet aussi sous forme de questionnaire, ce qui apparaissait pourtant jusque-là comme le symbole de l'impérialisme durkheimien sous son jour le plus philosophique, à savoir la théorie sociologique des catégories, représentation de l'espace, du temps, de la causalité, etc., en deviennent des objets d'enquête ethnographique. Et ainsi, au fil des leçons, il est de moins en moins question d'ethnographie ou d'ethnologie, et de plus en plus, dans la bouche de Mauss, du moins sous la plume de ses élèves, de sociologie. En somme, tout en appelant ses auditeurs à se défier de la sociologie pour observer, enregistrer, archiver, autre terme récurrent, avant toute chose, l'ethnographe, note-t-il, doit être le chartiste des sociétés, pratique qui suppose à la fois la collecte d'objets et la rédaction de fiches dont on a parlé ce matin, qui vont ensemble. Le cours se révèle ainsi structuré et nourri par la sociologie durkheimienne. Cette évidente continuité entre le Marcel Mauss cheville ouvrière de l'année sociologique, collaborateur privilégié puis dépositaire du projet sociologique durkheimien, et le Marcel Mauss professeur à l'Institut d'ethnologie, se lie également au cours de la même période dans la réaffirmation récurrente chez Mauss, que la sociologie ne saurait être une science sociale, mais qu'elle ne peut être que la science sociale. Le double discours vis-à-vis de la sociologie tient en fait sans doute, je pense, au fait qu'il s'adresse à un public très composite dans cet institut d'ethnologie, puisqu'il réunit des élèves des facultés de lettres, des élèves des facultés de sciences, des élèves de l'école coloniale, des missionnaires, des amateurs, etc. Et au fond, il s'adresse à ce qui peut représenter à ses yeux, je crois, deux catégories différentes de travailleurs. Ceux qui ne pourront mener que des enquêtes extensives, rapides, de collecte, menées selon ce que Mauss appelle la méthode d'inventaire. Et alors, il importe avant toute chose d'être objectif et complet. Et ceux susceptibles, selon son vœu, c'est l'idéal de Mauss, note un auditeur, de se faire vraiment sociologue ou ethnologue professionnel, c'est deux expressions qu'on retrouve, c'est-à-dire ceux qui pourront passer le temps nécessaire sur le terrain pour mener des études intensives. La division passe moins ainsi, comme il l'affirmait en 1925 encore de l'année sociologique, entre des sociologues qui éclairent et des ethnologues qui renseignent, qu'entre deux catégories d'observateurs, amateurs et professionnels, les seconds étant les seuls à même de mener, pour reprendre ces mots encore une fois, un travail sociologique approfondi. Ses élèves les plus proches, ceux qui, de l'Institut d'ethnologie, se rendent ensuite à l'EPHE et au Collège de France, sont du reste conscients de cette distinction entre ethnologie et sociologie. « Même si je ne suis pas sociologue, je me flatte d'être votre élève », lui écrit par exemple Alfred Métraux en 1927, avant de se ranger sous la houlette du neveu de Durkheim pour entreprendre des enquêtes dotées, selon ses propres mots, d'un caractère résolument sociologique. De même, lorsque va se poser la question de sa succession, puis surtout de la création d'une chaire d'ethnologie à la Sorbonne en 1942, Mauss pense d'abord à Charles Lecoeur plutôt qu'à Griaule, et Charles Lecoeur lui écrit « Je crois qu'en effet, si l'on veut enseigner aux étudiants à résoudre les 1000 difficultés pratiques de l'ethnographie, sans abaisser le caractère scientifique de ces études, sans retomber dans les curiositas des érudits antiques, je suis un des mieux qualifiés, peut-être même le seul qualifié avec un américaniste dont il ne saurait être question en ce moment. Je n'en tire pas vanité, cette raréfaction des compétences est une conséquence lointaine du massacre des sociologues en 1914-1918. » Cet américaniste dont il ne saurait être question, c'est bien sûr Jacques Soustelle, alors au Mexique, engagé auprès de De Gaulle, et longtemps vu, ne serait-ce que par son profil scolaire, qui rappelle celui des sociologues d'avant 14, normalien, premier à l'agrégation de philosophie, comme le principal espoir de l'ethnologie. Quant à l'autre américaniste, auquel nous pouvons penser, Claude Lévi-Strauss, que Mauss prendra pour Soustelle lorsqu'il lui rendra visite après la guerre, il s'inscrit encore dans une visée sociologique dans les années 40, Lévi-Strauss envisage son travail de thèse comme une synthèse de sociologie primitive, puis, dans le texte lui-même, de sociologie comparée, et présente au sortir de la guerre Marcel Griaule, Bernard Maupoil, Michel Léris, Denis Paulm, Roger Bastide, etc., etc., tous ou presque diplômés de l'Institut d'Ethno, comme la génération la plus jeune des sociologues français. Je saute un certain nombre de choses pour pouvoir revenir au deuxième point et essayer d'aborder cet effet de choc, cet effet d'entraînement que pouvait avoir le cours de Mauss pour une minorité de ses auditeurs. Et je dis bien une minorité parce que les traces qui documentent cet enseignement sont faites des quelques auditeurs pour lesquels il a été décisif d'une manière ou d'une autre. De l'effet qu'il pouvait produire sur la majorité, en revanche, il ne reste pas grand-chose, sinon des témoignages en creux qui soulignent plutôt la difficulté à le suivre. Je sortis du premier cours ébloui. Je n'avais presque rien compris, mais j'étais subjugué, note ainsi Denis Paulm en 1977. Ses opposants, indique Germaine Dieterlen, déclaraient que son esprit était comparable à un ciel nuageux traversé de quelques rares éclairs. À ses élèves, on demandait si nous le comprenions. J'ai toujours répondu que j'en étais pas certaine, mais que je prenais conscience de mon immense ignorance. Dieu sait que Marcel Mauss n'était pas un professeur facile, rapporte de son côté Jacques Soustelle. Découragé, certains étudiants perdent des pieds. Pour les autres, le premier désarroi surmonté, le chaos apparent s'ordonnait, et l'éclair de rapprochements imprévus, d'intuitions pénétrantes, jetait une lueur éblouissante sur le cortège des faits défilant en rang serré. Le témoignage qui est peut-être le plus direct de cette difficulté, elle se trouve sur la couverture d'une des dactylographies du cours, datée de 1934-1935, où se trouve cette annotation manuscrite, « Cours très bien pris, où apparaît en pleine lumière l'esprit de Mauss, et où l'on s'y retrouve quand même. » Comment comprendre alors l'effet d'entraînement que pouvaient susciter ces leçons ? Un premier élément me semble tenir à la forme d'enthousiasme savant qui transparaît. Mauss insiste à plusieurs reprises sur l'enjeu décisif que représente le travail d'enregistrement des sociétés, décisif non seulement pour la science présente, mais aussi pour la science de l'avenir. Ainsi, en quelque sorte, Il rehausse le prix attaché à une pratique qui était en France jusque-là surtout une pratique d'amateur et dramatise en quelque sorte les enjeux de la recherche. Toute lacune peut être désastreuse. Anatole Levitsky note ainsi en 1930, « L'enquête ethnographique, même très sommaire, doit indispensablement porter sur tous les différents aspects technologiques, économiques, esthétiques, juridiques et religieux, sous lesquels tout objet et tout phénomène, même le plus simple en apparence, se présente dans la réalité. Étudier tout, recueillir tout ce qui sera possible, collectionner tout, tout noter, donner toutes les variantes avec leur localisation exacte, colliger tout, on prend toutes les variations de tous les mythes, tous les rites, ensuite on se débrouille. Réunir tout ce qu'on peut savoir, sur tous les cas, chaque objet, chaque activité, études physiques, sociologiques, techniques. Rythmées par ces commandements, les leçons situent les enjeux de la recherche sur le plan de la totalité, de l'absolu. Et il faut encore ajouter, ce n'est pas le caractère le moins paradoxal de ce cours, que toutes ces informations doivent être absolument obtenues sans question. Une question, en effet, commande la réponse, dit Mauss. Par contraste, l'art de l'ethnographie consiste à faire surgir le phénomène devant soi et non à interroger. Ce caractère total, idéal d'un questionnaire en toute rigueur impossible à suivre, était, d'après les différents témoignages, redoublé dans les échanges avec les étudiants. Jacques Soustelle rapporte que Mauss avertissait ses élèves qu'à moins de connaître les langues de l'Antiquité classique, le sanskrit, l'hébreu, le chinois, pour ne pas mentionner l'allemand, l'anglais et le néerlandais, il était inutile de s'attaquer à l'ethnologie. Mais ces dimensions idéales et totalisantes se trouvent en même temps articulées à des anecdotes, à des exemples personnels, à une forme de mise en scène du professeur, dont les témoignages sont conservés dans quelques rares prises de notes qui ont porté leur accent sur cette dimension du cours. S'agit-il par exemple d'écrire l'histoire locale ? Il convient, dit Mauss, de chercher des vieux qui ont connu des vieux. Cela permet de remonter de 100 à 150 ans en arrière. C'est ainsi que M. Mauss a pu avoir des renseignements sur la cour de Louis XIV par sa grand-mère. S'agit-il de la photo aérienne ? On pourrait aussi repérer par la photo aérienne certains phénomènes techniques, tels que l'immense travail d'épierrement commencé au début du néolithique et continué par Mauss lui-même dans sa jeunesse. S'il est question de la non-coïncidence entre langue et société, je cite, « La mère de la nourrice du frère de Mauss, habitant à 12 km d'Épinal, n'en comprenait pas le parler. Devrait-on dire pour cela qu'elle n'était pas lorraine ? » S'agit-il de l'habitat ? Il ne faut pas non plus chercher la maison type. C'est ainsi que dans le village de M. Mauss, sur trois maisons voisines construites en 1754, une seule réalise le type alsacien. De l'usage des instruments ? En préhistoire, nous classons les instruments d'après l'idée que nous nous en faisons. Rien de plus sujet à l'erreur. La cuisinière de Mauss tient ses couteaux de la façon la plus inattendue. Cette mise en scène, qui était aussi une manière de rattacher l'idéal scientifique constamment réaffirmé à des questions prosaïques, lui donnant consistance, passait aussi par le corps. Parlant un jour des caractères distinctifs des races humaines, rapportait Denis Paulme à Marcel Fournier, il n'hésite pas à relever la jambe de son pantalon et à montrer son mollet en s'écriant « Ainsi voyez-vous, je suis l'un des hommes les plus velus du monde ». Elle se double assurément dans le cours d'une volonté de rompre avec les convenances et le sens commun, d'où l'accent par exemple porté sur l'étude des déchets, des latrines ou des pratiques sexuelles, à étudier avec le même souci de détail et d'exhaustivité que le reste. Elle s'accompagne encore d'une forte dimension aphoristique, pour ne prendre que quelques exemples. Hérodote est le père de l'ethnologie, et un très bon père. Ceux qu'il critique sont des ânes. Si l'on prend l'ensemble du monde, on peut dire sans se tromper qu'une société est connue sur 1000. Il faut se débarrasser du préjugé de la supériorité des nations européennes. Une petite tribu est un monde. Pour la décrire, il faut plusieurs volumes. Rappelons-nous cette vérité. Les cours font ainsi aussi toucher du doigt le côté hableur de Mauss qui faisait, selon Henri Lévy-Brull, une partie de son charme. Un étudiant note ainsi « Monsieur Mauss, dans ses principes de classification, nous transmettra le flambeau de son expérience quarantenaire en matière d'ethnologie, expérience qu'on ne saurait retrouver ailleurs, sauf peut-être dans le cercle de ses élèves ou de ceux qui l'ont copié. » « Vous avez de la chance », aurait-il dit à Paul-Henri Chambardelot à l'orée d'une année de cours. « Cette année, je vais tout traiter. » Pour autant, échappe par principe à ses prises de notes non seulement la présence physique, celle d'un professeur de stature assez vigoureuse, qui n'avait rien d'un intellectuel, doté d'une voix décrite comme caverneuse, basse ou sans éclat, mais aussi le cheminement d'une pensée souvent déroutante, conjuguant citations en anglais, en allemand, en turc ou en sanskrit, exemple emprunté tantôt aux papous, aux civilisations classiques, à la Bible, à l'Inde ou à telle société du Nouveau-Mexique, terme emprunté au vocable hawaïen et polynésien, référence bibliographique obscure, je l'ai dit, paradoxe et phrases laissées en suspens. Soudain, rapporte Bernard Chambaud, qui confesse avoir connu les plus grandes difficultés à comprendre les enchaînements de ce qui était dit, l'auditeur s'étonnait d'entendre Mauss commencer sa phrase par « douzièmement ». Quels étaient donc les 11 points précédents ? par la conjonction de ses différents traits, par sa fantaisie, son originalité, par son caractère prime sautier aussi, Mauss se démarque de ce que les étudiants attendent alors d'un professeur. L'enseignement, rapporte Denis Paul, nous changeait considérablement de ce que nous entendions à la faculté de droit ou à la Sorbonne. Discussion en petit groupe au sortir de la salle, balade dans Paris pour conduire Mauss jusqu'à son domicile, petit déjeuner dans son appartement. Ces pratiques, souvent évoquées par le petit nombre de ceux qui allaient devenir ethnologues, témoignent aussi du prix que Mauss attachait à ce que Lennart appela de manière choisie son ministère professoral. Il faut ajouter que Mauss, en bonne intelligence avec Lévi Brull et Rivet, multiplie les lettres de recommandation, ouvre à ses élèves ses réseaux savants, nationaux et internationaux, ainsi que ses réseaux politiques. Il agit auprès de la Fondation Rockefeller, il siège dans la Caisse nationale des sciences. Il rédige des lettres d'introduction, suggère des interprétations, relit de près les articles, les plans ou les thèses, appuie les démarches de naturalisation, intervient auprès des autorités militaires ou coloniales, se préoccupe de l'avenir professionnel des uns et des autres. « On épuise vite avec vous », lui écrit Griaule en 1928, toutes les formules de remerciement. En première approche, et pour conclure, en m'excusant d'avoir été long, il se dégage, je crois, de ces différentes sources, une même tension entre deux pôles, une même ambivalence, en laquelle se joue peut-être un des ressorts pédagogiques de cette activité. Le cours concilie en effet une exigence scientifique totale, soulignée par la valeur que Mauss lui-même lui attribuait ouvertement et s'attribuait ouvertement, à tel point qu'il transmet à proprement parler un questionnaire impossible, un idéal, un sens de la complexité, et il l'articule néanmoins avec une dimension prosaïque, concrète, transgressive. Le contraste entre d'une part l'âge, l'autorité, la carrure, la voix caverneuse, l'imposante barbe blanchie du professeur, et d'autre part sa jeunesse d'esprit, son originalité notamment vestimentaire, sa disponibilité, redouble cette tension. L'indiscipline savante de Mauss, qui n'était pas que savante, sensible dans les cours, surtout si l'on pense par contraste à l'enseignement vertical et rigoureux décrit comme prophétique de Durkheim, ou à un Maurice Halbwachs qui, à la même époque, lisait consciencieusement ses cours, eux aussi entièrement rédigés. Mauss parvient, quoi qu'il en soit, à susciter une forme d'engouement scientifique. Il donne naissance ainsi à des sentiments qui mêlent affection et respect. Ce sont les deux mots qu'on retrouve systématiquement sous des formules différentes dans les lettres envoyées par ses élèves. Affection et respect qui font penser finalement que le statut de père de Mauss se trouve largement construit de son vivant. Il se décrivait pour sa part plutôt en mère poule des ethnographes. Et c'est bien ce père disparu que les textes du tournant des années 1950 célèbrent et revendiquent, dans un geste mêlé de fidélité et d'annexion à des projets intellectuels qui tous se situent à distance de la science sociale en majesté, la sociologie, à laquelle Mauss s'était dévoué. Je vous remercie de votre attention.
Merci d'avoir évoqué le ministère professoral de Marcel Mauss dans l'un des lieux où il s'est déployé et d'avoir fait retentir sa voix d'une certaine façon avec beaucoup de vivacité. Je pense qu'il y a des questions à ce propos.